Bonsoir. Angela Merkel appelle à la mobilisation contre la haine. La chancelière allemande a une nouvelle fois dénoncé aujourd'hui la montée du populisme dans son pays. Les tensions sont particulièrement vives à Chemnitz, la correspondance de Ludovic Piétenu dans un instant. La polémique au Brésil après l'incendie qui a ravagé le musée national de Rio. L'établissement était mal entretenu, victime des restrictions budgétaires. Le reportage d'Anne Vigna. En France, on devrait connaître demain le nom du successeur de Nicolas Hulot au ministère de la transition écologique. Quelle sera l'ampleur du remaniement gouvernemental? Nous poserons la question à Yaël Gauz. Emmanuel Macron qui doit aussi trancher la question du report ou non du prélèvement de l'impôt à la source. Les petits patrons de la CPME sont contre cette réforme. François Asselin, président de l'organisation patronale, est l'invité de ce journal. Ce n'est qu'un sondage, mais il témoigne de la poussée populiste en Allemagne. Selon une enquête de l'Institut INSA, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, est aujourd'hui le deuxième parti politique outre-Rhin, avec 17%, un point de plus que les sociaux-démocrates du SPD. La CDU-CSU d'Angela Merkel reste en tête des intentions de vote avec 29%, mais elle s'effrite. La chancelière allemande, qui appelle ses concitoyens à se mobiliser contre la haine, une haine que propagerait, selon elle, l'Alternative für Deutschland et le mouvement anti-islam Pegida. Les deux formations ont rassemblé samedi 8000 personnes à Chemnitz après le meurtre d'un Allemand pour lequel un migrant irakien a été arrêté. Ludovic Piétenu nous appelle de Berlin.
Chaque citoyen peut prendre position contre la division de notre pays. Angela Merkel réagit pour la deuxième fois depuis les événements de Chemnitz. Mardi dernier déjà, elle désapprouvait la haine dans la rue et les chasses collectives. Mais aujourd'hui, au-delà d'une nouvelle condamnation, je la cite, des messages de haine contre les étrangers, les responsables politiques, la police ou la presse, ce sont davantage ici des paroles pour exhorter son peuple. Hier déjà, son ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate Heiko Maas, invitait les Allemands à sortir de leur confort pour défendre les valeurs démocratiques. Il nous faut quitter nos canapés, disait-il, et prendre la parole, estimant que la majorité des Allemands était en coma éveillé. Un autre social-démocrate, et pas des moindres, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, a de son côté annoncé son soutien pour le concert qui se déroule ce soir à Chemnitz, un concert de rock sous cette bannière. Nous sommes plus nombreux. La coalition au pouvoir, affaiblie par les coups politiques répétés de l'AfD, cherche auprès de l'opinion publique allemande un peu de soutien dans des temps bien agités.
Ludovic Piétenu, merci. Et effectivement, le concert Rock contre la haine organisé ce soir à Chemnitz a rassemblé 50 000 personnes. Les organisateurs n'en attendaient que 30 000, des chiffres fournis par la municipalité social-démocrate de Chemnitz. C'est dans ce contexte de tension qu'un migrant a été condamné pour meurtre ce matin à Landau, non loin de la frontière française. 8 ans et demi de prison pour avoir poignardé à mort son ex-petite amie allemande à la fin de l'année dernière à Kandel. L'agresseur affirme qu'il est mineur afghan, mais la justice allemande n'a pas réussi à établir avec certitude son âge et sa nationalité. Le Brésil est sous le choc ce soir après l'incendie qui a ravagé la nuit dernière le musée national de Rio de Janeiro. Il ne reste presque plus rien de l'établissement installé depuis 1818 dans l'ancien palais impérial de la ville. Le musée, l'un des plus importants d'Amérique latine, était mal entretenu faute de crédits suffisants, d'où la colère des Brésiliens ce soir à Rio. Le reportage d'Anne Vigna.
Indignation, tristesse, colère, voilà ce que sentaient ce matin à Rio de Janeiro les étudiants et professeurs qui se sont réunis spontanément devant les grilles du musée national. Ricardo est professeur d'histoire à l'université d'État de Rio de Janeiro et plusieurs de ses recherches étaient conservées au musée.
On est venu ici pour protester contre cet incendie au musée national qui est la conséquence directe des coupes budgétaires qui ont été faites dans le domaine de la science, la technologie et dans les archives du patrimoine. Il s'agit d'un projet de démontage de la culture qui a eu lieu ces dernières années. Et la conséquence, malheureusement, c'est cette tragédie.
Le musée national était le plus important d'Amérique latine. Il contenait des collections uniques au monde en paléontologie et anthropologie, comme l'explique un autre professeur.
Je suis professeur à l'Université pontificale de Rio et je suis venu montrer ma solidarité à tous mes collègues qui travaillaient ici pour cette perte absurde pour la science. En plus de la perte culturelle, le pire est peut-être la perte scientifique, car il y avait beaucoup de matériel dans ce musée qui est irréparable. c'est près de 200 ans de connaissances scientifiques qui viennent d'être perdues.
Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. L'enquête est en cours, mais les défaillances du système électrique avaient déjà été dénoncées par le conservateur du musée en juin dernier.
Anne Vigna, correspondante de France Culture à Rio de Janeiro. En France, d'ici demain soir, le gouvernement sera au complet. Engagement pris par Emmanuel Macron vendredi lors du dernier Conseil des ministres. Pour le président, il s'agit de remplacer Nicolas Hulot à la transition écologique. Yael Gauz, reste à savoir si un remaniement plus large est envisagé à l'Élysée.
En fait, c'est comme la bourse, ça fluctue en permanence, ce qui transforme les journalistes politiques en prévisionnistes météo plus ou moins fiables. Restons modestes, ce que l'on sait, c'est que deux ministres poids lourds ont reporté leur rentrée, Gérard Collomb à l'intérieur et Christophe Castaner. Dans les cabinets, tout fonctionne au ralenti. Des ministres textotent avec des journalistes pour s'informer sur leur sort. Des journalistes textotent avec des ministres pour leur poser la même question sans réponse. Les agendas sont mis entre parenthèses. Mounir Majoubi, en charge du numérique, devait par exemple s'envoler pour Israël. Déplacement annulé. C'est de la navigation à vue dans un flou intersidéral, se lamente un conseiller ministériel avec qui j'ai pu échanger. On suit, on s'ennuie, poursuit ce collaborateur. C'est pénible. Rien n'est fiable, personne n'est fiable. Alors quitte à être dupé, selon nos dernières informations, Pascal Canfin du WWF tiendrait la corde pour remplacer Nicolas Hulot et deux ministères affaiblis seraient renforcés par l'arrivée de secrétaires d'État à la culture et au pôle santé et social. Problème, ce remaniement à minima permettrait-il à Emmanuel Macron de rebondir avant d'affronter les européennes? Rien n'est moins sûr, d'autant que sa décision sur le prélèvement à la source pourrait provoquer bien d'autres remous à Bercy.
Yael Gauz, merci. Et justement, demain sera une journée chargée pour l'exécutif puisqu'Emmanuel Macron doit tenir dans la matinée une réunion sur ce fameux prélèvement à la source avec le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. Le président va-t-il reporter la réforme qui doit entrer en application le 1er janvier prochain? Il n'est pas sûr que l'on ait la réponse dès demain. Invité de ce journal, François Asselin, président de la CPME, principale organisation des petites et moyennes entreprises. Bonsoir.
Bonsoir.
François Asselin, quelle est votre position sur cette réforme à la CPME?
Notre position a toujours été la même depuis le départ. Vous savez, c'est un dossier que je connais particulièrement bien, puisque il y a 3 ans déjà, j'allais régulièrement à Bercy. À l'époque, c'était Christian Eckert qui était le ministre en charge de ce dossier, pour expliquer toute la complexité qu'il y aurait à mettre l'entreprise comme collecteur d'impôts sur le prélèvement à la source. Donc, nous avons tout le temps été opposés au fait que ce soit l'entreprise qui fasse, en lieu et place de la DGFiP, donc de l'administration fiscale, le travail de collecter l'impôt. Alors on nous a souvent opposé le fait que l'entreprise déjà collectait la TVA, par exemple. Oui, mais attention, là on touche au denier personnel de nos salariés. C'est ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et là, c'est tout autre chose.
Et rien n'a changé avec Emmanuel Macron? L'actuel pouvoir ne vous a pas rassuré?
Alors Emmanuel Macron avait le choix, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de continuer ou de ne pas continuer ce projet de réforme, puisqu'il n'était pas dans, ce n'était pas dans ses promesses présidentielles. Je crois que c'est une victoire de l'administration, ce à quoi nous assistons. Je pense que l'administration de Bercy a été particulièrement pugnace sur cette volonté de réformer le prélèvement à la source. Ça serait d'ailleurs intéressant de vraiment aller fouiller pour en connaître vraiment les raisons intimes de cette réforme, sachant qu'il y aurait d'autres possibilités plus simples techniquement que celle qui a été choisie jusqu'à maintenant.
Et notamment la mensualisation.
Oui, alors la mensualisation, il suffisait de générer la mensualisation et puis de la rendre compatible avec le revenu actuel. On appelle ça l'impôt contemporain. C'est la seule différence entre le prélèvement à la source et la mensualisation. Il fallait rendre cette mensualisation contemporaine. C'était techniquement possible. Le choix n'a jamais été orienté dans ce sens-là. On aurait très bien pu aussi imaginer que ça soit directement sur les comptes bancaires des salariés qu'on puisse prélever l'impôt. C'est le cas d'ailleurs avec la mensualisation. Cette solution a été balayée d'un revers de main. Je me demande encore pourquoi. Et puis aujourd'hui, le suspense est intenable, puisque à quelques heures, eh bien, nous saurons si oui ou non il y aura prélèvement à la source dans notre pays. Mais quand même, tout ce temps où on a passé des heures, des journées, des semaines à expliquer que nous, employeurs, nous n'étions pas faits pour assumer le rôle de percepteur d'impôts, je suis quand même particulièrement fâché de me rendre compte qu'il faut attendre autant de temps pour peut-être être entendu.
Mais pourquoi vous ne voulez pas assumer ce rôle de collecteur d'impôts? C'est un problème de moyens pour les PME?
Alors d'abord, c'est assez étonnant qu'on sous-traite à une classe sociale, les employeurs, le travail de l'administration fiscale. On pourrait au moins demander ou avoir compensation. Vous savez, dans un pays comme la Suisse, où il y a le prélèvement à la source, opéré par les entreprises, elles sont rémunérées pour faire ce prélèvement à la source. Donc on aurait pu au moins espérer qu'il y ait compensation. Ensuite, si jamais demain, il y a des bugs, et vous avez entendu qu'il y a potentiellement des bugs, croyez-vous qu'à chaque fois l'entreprise sera mise hors de cause ? J'en doute. Dans le temps, j'en doute fortement, puisque généralement, c'est le pot de terre qui s'affronte au pot de fer avec l'administration, surtout avec l'administration fiscale. Et puis le temps que nous y consacrons, vous avez eu des services de Bercy qui ont estimé le coût du prélèvement à la source, à savoir pour une petite entreprise de l'ordre de 50 euros par fiche de paye. Oui, mais attention, ça, c'est quand tout fonctionne bien. Mais lorsqu'il y aura un petit problème, le temps que vous allez consacrer, là, je peux vous dire que le compteur de coûts va s'incrémenter très rapidement. Et puis aujourd'hui, on nous avait dit que les éditeurs de logiciels feraient ça gratuitement. Beaucoup d'entreprises, et j'en fais partie, je ne suis pas un cas isolé, reçoivent des devis de mise à jour de leur logiciel de paye pour l'application du prélèvement à la source au 1er janvier prochain. Donc déjà, il y a des coûts induits, réels, qui tombent dans les entreprises, plus le temps, bien sûr, que nous allons y consacrer.
En clair, François Asselin, la CPME demande aujourd'hui au gouvernement de reporter, voire d'annuler la réforme.
Nous demandons deux choses. Premièrement, le prélèvement à la source est un choix politique. Si ce choix est maintenu, nous sommes légalistes, il faudra bien respecter la loi et nous accompagnerons nos adhérents pour respecter la loi. Mais s'il y a un report, il faut que ce report soit utile, absolument utile, et sortir l'entreprise du dispositif. Et ça, nous sommes prêts à y travailler.
En tout cas, vous souhaitez ce report.
Bien sûr, nous souhaitons ce report. Et qu'il soit utile, surtout.
François Asselin, il y a tout de même ce sondage de l'IFOP pour le JDD qui indique que 60% des Français sont favorables au prélèvement à la source.
Oui, alors je ne veux absolument pas, entre guillemets, accabler les Français par rapport à cela. Mais savent-ils, par exemple, que ça ne changera quasiment rien pour eux en matière de simplification, puisqu'il faudra faire une déclaration annuelle rectificative. Et puis, vous avez des Français qui bénéficient de crédits d'impôt. Eh bien, 70% de leur crédit d'impôt sera remboursé en fin d'annuité. Donc, pour toutes ces raisons, vous savez, le jour où on a effectivement cette réforme et qu'on y est confronté, peut-être que la proportion de 60% aujourd'hui favorable risque gentiment de s'effriter. Ceci dit, si les Français le veulent, pourquoi pas? Mais lorsque l'employeur sera au milieu du dispositif, je ne sais pas si beaucoup de salariés aimeront que l'employeur ait accès à leur niveau de fiscalité.
François Asselin, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Plus de 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire ce matin, accueillis par près de 900 000 enseignants. C'est la deuxième rentrée du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, le ministre qui veut amplifier le sillon des réformes lancées l'an dernier. Et il y a notamment le dédoublement des classes de CP en zone prioritaire. Exemple avec ce reportage d'Alexis Morel à l'école Jules Guedes d'Argenteuil dans le Val d'Oise.
Qui est-ce qui peut dire quel jour nous sommes aujourd'hui ?
Première minute dans la classe, première prise de contact pour ces petits CP un peu intimidés. Ce matin, ils sont à peine 8 face à leur maîtresse.
Vous n'êtes pas beaucoup, non, vous n'êtes pas beaucoup. Effectivement, il monte 4 enfants parce que normalement on est 12.
Ah oui, quand alors, tous les retardataires seront arrivés, ils seront donc 12 au maximum. C'est la conséquence du dédoublement. Le dispositif lancé en grande pompe l'an dernier s'étend cette année à toute l'éducation prioritaire en CP. 190 000 élèves au total. Ici à l'école Jules Guedes d'Argenteuil, on passe d'un seul coup de 2 à 5 CP et la maîtresse Camille Julien en attend beaucoup.
Ça va changer énormément pour nos pratiques de classe. En fait, ça va changer. On va pouvoir mettre en place différents types de pédagogie. Ça fait 5 ans que j'essaye de mettre en place d'autres pédagogies, d'innover un petit peu. C'est assez difficile à 26. Par contre, à 12, là, je vais pouvoir essayer des ateliers autonomes, leur laisser plus d'autonomie. Moins on a d'élèves, c'est quand même beaucoup plus facile.
Seul bémol, il a fallu pousser les murs, faire de la place pour toutes ces classes. Ici, on a investi la salle informatique et l'une des bibliothèques de l'école.
Alexis Morel avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Selon le SNUIPP, principal syndicat d'enseignants dans le primaire, il manquerait plus de 1300 postes pour mener à bien ce dédoublement des classes de CP en zone prioritaire. Le temps demain, nuageux et pluvieux sur une partie de la moitié nord, de la Normandie au Grand Est en passant par les Hauts-de-France. Le ciel sera variable sable de la Bretagne à la Franche-Comté. Au sud, le soleil s'imposera. Les températures minimales de 9 à 20 degrés du nord au sud. Les maximales s'échelonneront de 19 à 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.